L'autre jour, quand je me suis demandé de quoi j'allais parler ce soir, je voyais un peu en moi deux tendances. Je sentais une forme de stress, d'anxiété, en lien un peu au quotidien, à la période à laquelle que je traverse en ce moment, avec beaucoup de questions sans réponse, avec cette canicule, je sens que ça me prend. Là, il pleut, c'est super. Et je voyais tout ça un peu mariner en moi, de quoi je vais parler. Hein, le quotidien qui nous traverse. Et cette tendance à me dire, ah non, je pourrais juste faire autre chose, regarder mon écran, regarder quelques vidéos. Penser à autre chose. Et puis cette petite voix qui s'est installée à travers le temps dans la pratique de se dire non, mais viens rencontrer ce qui est là. Puis je me disais vraiment, il faut parfois du courage pour rencontrer le moment présent. Ah, il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas envie. Et ça devient des fois évident en retraite, quand on médite longtemps, on n'a juste plus du tout envie d'être là. Et il m'est revenu une parole de Pema Chödrön, qui est une nonne bouddhiste dans la tradition Vajrayana, mais qui, dans ses enseignements, rejoint et s'aligne beaucoup avec ce qu'on nous enseigne dans la tradition Theravada, cette qualité de présence à l'instant. Et cette parole d'un de ses livres que j'aime beaucoup, qui dit: la souffrance commence à se dissoudre quand nous sommes capables de remettre en question la croyance ou l'espoir qu'il existe un endroit quelconque où se cacher. Et je voyais en fait que j'avais envie un peu de me cacher, et peut-être que parfois c'est l'effort juste se cacher un moment pour revenir, mais que si je me cache tout le temps, les choses elles traînent en moi. Et elles ne disparaissent pas, elles vont toujours ressurgir à un moment. Donc je me suis dit, ok, voyons ce moment présent. Et pourquoi est-ce que dans la pratique du Vipassana et toute l'approche bouddhiste, ce moment présent, on en parle tout le temps, encore et encore, en quoi est-il si important? Pourquoi on y met tellement d'énergie? Et que ça devient le cœur de tout notre chemin. Et pour ça, il faut comprendre un peu. Ça nous aide pour qu'on puisse s'engager dans quelque chose. On a besoin de comprendre un petit peu. Et si on y réfléchit un peu, comme je vous le disais hier, rationnellement, on se rend vite compte qu'en fait, tout ce qu'on a traversé dans notre vie, ça a toujours été le maintenant. En fait, nous n'avons que cela, nous n'avons que l'instant présent. Nous sommes nés dans l'instant présent, nous mourrons dans l'instant présent. C'est la seule chose qui est là, et même cet instant nous file entre les doigts, on peut parler de moment présent. Que ce moment, c'est en même temps le résultat du passé et la cause du futur. C'est un point de jonction de la loi de cause à effet, de la loi du karma. Ce corps tel qu'il est, ce corps, ce mental, les mémoires qui sont là, cet ego avec cette personnalité, cette identité, hein, c'est le résultat de choses, de karma du passé, de causes du passé, qu'elles soient individuelles, familiale, interrelationnelle, sociétale. Et que la manière dont je vais réagir à ce qui se passe maintenant va conditionner en grande partie ce que je vais vivre plus tard. Donc nous sommes dans un point de jonction central. Comment est-ce que nous nous lions à ce moment-là, à maintenant? Avec aversion, avec avidité, avec qu'on paie aveuglément, avec compassion, avec sagesse. Et finalement, ce moment, c'est la porte d'entrée à tout le chemin. On met en conscience ce moment présent et on travaille dessus. On se rend vite compte que dès qu'on s'en approche, qu'on a, hein, il peut émerger ce sentiment de jamais se sentir vraiment à sa place, que c'est pas le bon moment d'être là, que la paix et le bonheur, c'est pas pour maintenant, mais ça sera peut-être pour dans une heure, peut-être quand je rentrerai à la maison, ou dans une semaine, ou quand j'aurai fini telle formation, ou que j'aurai changé de boulot, ou qu'enfin, quand les vacances arriveront. Peut-être qu'il y a quelques jours, vous disiez, ah, enfin, quand je serai en retraite, ça ira. Et maintenant que vous y êtes, ben c'est pour plus tard, de nouveau. C'est comme si la ligne d'arrivée de notre... De ce que nous cherchons tous, hein, cette ligne d'arrivée, elle avance tout le temps, en même temps que nous avançons. Et c'est jamais pour maintenant. Vous voyez le stress? Et ça, c'est le fonctionnement de notre esprit. Et c'est ce sur quoi nous nous penchons quand nous revenons dans cet instant. C'est une sage indienne qui disait « La vie que l'aube nous apporte est la seule que nous ayons. La vie est dans l'ici et maintenant, et non dans le là-bas et l'après. Le jour, avec tout le travail et la joie qui l'amène sur le pas de notre porte, est la vie éternelle. Soit nous la rencontrons, nous la vivons, soit nous la manquons. » Et Gustave Flaubert qui dit dans un de ses livres « L'avenir nous tourmente, le passé nous retient. » C'est pour ça que le présent nous échappe. Donc, très concrètement, ça veut dire quoi, être dans le moment présent? Parce que finalement, c'est que des mots et des... Hein, une phrase qu'on entend, des pensées. Ça signifie quoi, être dans le moment présent? Ça signifie déjà... En pali, on parle de sati. Sati, la pleine conscience, l'attention, mais qui veut dire aussi se souvenir. Donc, être dans le moment présent, c'est déjà se souvenir d'être là. Est-ce que je suis là? Et même si ça peut vous paraître rébarbatif et que vous avez déjà entendu ça 1 million de fois, eh ben, je pense qu'on a besoin de l'entendre jusqu'au bout, tous les jours. On oublie, hein, si facilement. Est-ce que je suis là? Ah, j'étais complètement paumé dans mes pensées. Ah, il y avait une histoire, là, il y a 5 ans, j'y suis de nouveau. Des trucs dans le futur, une interprétation de ce qui se passe maintenant, une évaluation. Donc être dans le présent signifie pas interpréter le présent, mais d'entrer dans une expérience directe de ce qui est là. Et ça signifie être... avec ce qui est toujours là, et qui, lui, n'est jamais dans le passé ou le futur, ce bon vieux corps. Qui nous accompagne. Et on peut savoir qu'il y a un corps parce qu'il y a des sensations qui nous l'indiquent. Les sensations, qu'elles soient, qu'elles viennent de l'intérieur. Ah, c'est... des sensations qui viennent de nos sens, des contacts auditifs, sens visuels, le goût, l'odorat. Et un autre sens encore que les bouddhistes considèrent, c'est les pensées, comme un sens, des contacts sans arrêt avec des pensées dans votre esprit, comme il y a un contact de mon regard sur ce rideau rouge. Donc il y a ce corps avec des sensations, des sens, des consciences sensorielles. Et nous pouvons entrer en contact directement avec cela. Et d'une texture allez, douce du tapis, rugueuse, de, je ne sais pas, il y a des ressentis qui émergent. Hein. C'est une forme de qualité affective, agréable, désagréable, neutre, qui accompagne ces sensations. La vue de cette flamme, c'est un contact. C'est chaud. Et son contact est plutôt agréable. Donc nous pouvons noter ça dans le moment présent. Quels sont les ressentis? Parfois, ce sont des ressentis, un ressenti général. Là, c'est plutôt agréable, plutôt désagréable. Si nous allons des fois un peu plus précisément, nous pouvons nous rendre compte que peut-être dans la globalité, c'est désagréable, mais juste là, dans les mains, c'est plutôt agréable. Que dans mes coudes, c'est franchement neutre. Et que l'espace autour de moi, c'est un contact plutôt agréable. Nous sommes souvent, l'attention se focalise souvent sur le désagréable par un biais, hein, par un biais négatif. Mais si nous y prêtons attention, il y a une foule de ressentis différents autour de nous. Et les neutres, on les remarque rarement. Être présent, c'est aussi être présent avec les états d'esprit, hein, qui incluent les pensées, les émotions, l'humeur, l'état du moment. Est-ce que l'esprit est plutôt agité, concentré, pas concentré? Être présent avec les états d'esprit, c'est par exemple de voir que ça pense. Ah, là, ça pense. Ce qui est différent que d'être pris dans nos pensées identifiées. Mais il peut, et c'est souvent le cas lorsqu'on médite, même de longues années, et c'est souvent, c'est ce qui lâche, il semble en dernier, l'agitation mentale, avant d'être pleinement libéré. Ben, les pensées, elles continuent à affluer. Mais c'est différent de se laisser happer dedans, dans des pensées identifiées, que de voir que ça pense, et que de voir qu'il y a des pensées. Et on peut voir cela, on peut voir s'il y a une émotion qui émerge, dans quel état l'esprit se trouve juste maintenant. Donc ça, c'est les trois premiers fondements de la présence. Corps, ressenti, état d'esprit. Le quatrième, j'en parlerai un peu demain. C'est d'exposer notre attention aux enseignements du Bouddha, à certains enseignements. Hein, ce sont, on met directement en pratique des enseignements du Bouddha qui touchent au fonctionnement de l'esprit, comment l'esprit crée la souffrance juste maintenant, ou quels sont les obstacles qui sont là. Comment l'esprit crée l'expérience identifiée et s'y attache. Donc ça, c'est le quoi, sur quoi nous posons notre attention. Hein. Quand on dit oser rencontrer l'instant présent, c'est poser notre attention sur ces trois fondements et ce quatrième dont je parlerai demain. Il y a le comment. Comment nous sommes là? Avec quelle qualité d'attention? Est-ce que c'est jugeant, non jugeant? Est-ce que nous pouvons ouvrir un espace de réceptivité à ce qui est là juste maintenant? Ou est-ce que nous sommes en train d'interpréter, d'évaluer, de dire c'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est faux. Donc cette qualité-là, elle est centrale et ce sera l'objet aussi des instructions de demain matin. Donc en conclusion, lorsque nous rencontrons l'instant présent, nous faisons plusieurs choses. Nous reconnaissons ce qu'il y a là. Parfois, il est utile de nommer agréable, désagréable, neutre, colère ou joie, tranquillité, à penser du futur ou du passé ou juste penser. Des fois, il est utile de nommer ce qui se passe. Donc, nous reconnaissons ce qui est là maintenant. Nous permettons aussi à ce qui est là d'être là. Accepter n'est pas approuver. Ce n'est pas parce que nous acceptons une expérience difficile dans l'instant, désagréable, que nous l'approuvons et que nous souhaitons toujours vivre là-dedans. Mais accepter les choses telles qu'elles sont maintenant est un point clé de notre pratique. Quel que soit ce que je souhaite, juste maintenant, c'est comme c'est. Un autre aspect, c'est que nous demeurons avec l'expérience quelque temps. C'est pas ah ouais, ok, il y a de la colère, hop, et puis je passe à autre chose, je vais faire mes trucs. Non, comment ça que de rester avec, de demeurer avec quelque temps, de la sentir dans le corps. Ah, il y a de l'aversion. Là, on arrive à la fin de l'assise, je commence à en avoir marre. Il y a de l'aversion. Ouais, ok. Est-ce que je peux me laisser sentir ça? Ah, ça n'a rien de génial, quoi. Mais il est important de voir que nous faisons ça constamment dans le quotidien, sans même y prêter. Dès qu'il y a un peu d'aversion, nous passons à autre chose. On ne se laisse jamais sentir le désagréable. Donc on demeure avec l'expérience, on voit comment son expérience psychocorporelle, comment c'est. On lui fait un peu d'espace, on met de la curiosité, un peu d'intérêt. Hein, une douleur, par exemple, ça pourrait dire, ah, ok, là, il y a cette douleur. Comment est-ce? Hein? Effectivement, il y a un contact avec la douleur. Ce ressenti désagréable engendre le j'aime pas. Ce j'aime pas engendre des constructions mentales là autour, toute une histoire. Mais très concrètement, si on laisse les histoires de côté, c'est comment? Ça picote, ça tapote, c'est rouge, c'est bleu, c'est jaune, ça bouge pas, ça a quel volume, quelle forme. Il s'agit pas de faire tout le temps ça, mais c'est des exemples qui peuvent. Et des moyens habiles que nous pouvons utiliser. Et donc nous demeurons avec l'expérience et nous nous ouvrons un petit peu, hein, c'est ça, nous nous rendons un peu curieux. Nous disons, ok, c'est là, comment c'est? Est-ce que je peux faire un peu de place à cela? Ça crie en moi, ouais, ok, mais si ça crie en moi, c'est quoi qui crie? Est-ce que je peux offrir un peu d'espace à cela? C'est Pema Chodron à nouveau qui dit dans un de ses livres, c'est très aidant de se rendre compte que ce corps, ces émotions et cet esprit, tels que nous les avons maintenant, est exactement ce dont nous avons besoin pour être pleinement éveillés, pleinement humains, pleinement vivants. Et souvent nous croyons que ce que nous avons là, c'est pas ce qu'il nous faut maintenant pour nous éveiller, grandir. Je pense que c'est une erreur, qu'il y a un problème à résoudre. Mais comment ce serait de vraiment prendre cet instant comme notre maître, d'instant après instant, qu'il y ait de la confusion ou de la clarté, que ça nous semble génial ou nul, extraordinaire ou complètement ordinaire. C'est ça, ne pas se cacher. Hein. Donc ça nous demande du courage, parce que plus souvent on s'en désintéresse, On préfère être déjà dans l'après, ou c'est désagréable et on cherche à éviter, à pas sentir, ou à combattre ce qui est là. Au quotidien, on le voit, je le vois, c'est l'esprit qui est toujours en quête, hein, de sa prochaine envie, la prochaine chose à satisfaire. Là, je vais manger. On arrive à midi, il faut que je mange. Alors, je vais manger. Après, on arrive à la fin du repas, il me faut un dessert. Arrive à la fin du dessert, bon, il me faut un café. Après, maintenant, il me faut une sieste. Bon, allez, maintenant, je vais bosser. Ok. Mais je bosse, mais je suis déjà dans. Quand j'aurai fini de bosser, je pourrais me regarder le prochain épisode de cette série. Je pourrais regarder le prochain épisode de cette série. Et ainsi de suite. Hein, l'esprit, il est projeté toujours dans la prochaine envie, toujours dans l'après, après, après, après. Ou dans la prochaine tâche à faire, dans le faire, le faire. Il y a ça à faire, puis après il y a ça à faire, puis il y a ça à faire, il y a ça à faire. Ça ne s'arrête jamais. Hein? On passe d'une réaction conditionnée à une autre réaction conditionnée. Il y a tel contact qui vient. Et je réagis de manière conditionnée à cela, et encore, et encore. Et si bien que pendant des semaines, des mois, toute une vie, on peut fonctionner ainsi. Hein, sans à un moment donné se dire, pause, pause, qu'est-ce que je suis en train de faire? Quel sens je donne à tout ça? Quelle est mon intention derrière le fait de dire cela, de faire cela? On est pris dans un flux, hein? Et derrière, il y a ce qu'on appelle cette tanha, cette soif, qui nous pousse, hein, comme si on était toujours assoiffé de quelque chose. Et dans le quotidien, ça va vite, comme je le dis souvent. Et c'est dans l'assise, dans la pratique, qu'on s'en rend compte. Ça nous saute au nez. Quand on se met assis, qu'on est motivé, hein, généralement, les premières minutes, ça va. On commence à méditer, on est motivé, on se dit oh, trop bien, c'est un nouveau truc, j'ai lu un super livre, ça m'inspire trop. Oh, j'ai vu une personne assise comme ça, puis en plus il y avait une aura autour d'elle. Il était droit, puis il y avait les sept chakras qui étaient comme ça, puis il avait l'air d'être complètement ouvert, c'est trop beau, je veux faire la même chose. Puis on y va, on commence, on le fait. Des fois ça dure quelques minutes, ou quelques jours, ou quelques semaines. Et tant qu'on est dans l'agréable, tant qu'il y a la motivation, tant qu'il y a l'intérêt, ça va. Et tôt ou tard, ça commence à changer. Ça devient franchement moins extraordinaire. On se dit, ouais, en fait, j'y arrive pas. Ou en fait, c'est pas. En fait, je rencontre que de l'agitation. En fait, je vais faire un effort surhumain pour me concentrer, et puis en fait, ça me rend complètement rigide. Il faut qu'il y ait du silence partout, il faut que je puisse avoir mon temps à ce moment-là, sinon ça ne va pas. S'il y a un tracteur qui passe, c'est la cata. Ou s'il y a les voisins du dessus qui écoutent de la musique, ça m'énerve. Hein, ça commence à changer. On le voit vite, on est assise ici, ou on revient, on se pose. Et tout d'un coup, il y a les tensions qui commencent à apparaître, des douleurs. Ça commence à devenir désagréable. Ça commence à devenir long. Hein, il y a les obstacles qui commencent à être là. On arrive à se concentrer quelques temps, un peu sur la respiration. Après, on se dit, encore 45 minutes, là. Puis il y a les obstacles, hein, ces empêchements. Ça peut être de l'agitation mentale qui nous sort systématiquement de la pratique qu'on a envie de mettre en place. Il peut y avoir de l'aversion à des sensations physiques, ou à une histoire qui tourne en moi, à la pratique tout simplement. Hein, l'aversion, elle peut prendre des multiples facettes. Et elle grandit comme une histoire dans ma tête. Je ne veux pas, je déteste, je ne veux pas. Où il y a l'avidité. Ah, j'ai trop envie de ça. Et ça nous... Ça nous obnubile notre esprit. On est identifié dedans. Ça nous prend tout. Hein, on est à la maison, on médite. Ici, on est le groupe, il y a quelque chose qui maintient un peu, mais est-ce que vous êtes déjà arrivé de méditer 5 minutes, puis après de vous dire, il y avait ce truc à faire, mince. Ah, il y avait ce truc à faire, j'ai trop envie de faire ça. Ou, j'ai oublié, je me suis acheté un super truc à boire, là, une nouveauté, je sais pas. Ah, j'ai trop envie de me le goûter. Voilà. Puis ça commence à monter, et puis finalement, il y a cette envie, cette avidité qui, ça peut être n'importe quoi, hein. Et après, on arrête. Il y a bien sûr la somnolence, la torpeur, qui peut être aussi vécue comme un obstacle. Le doute. Qu'est-ce que je fais là? Je fais juste, pas juste. En fait, est-ce que c'était une bonne idée de venir ou pas? Est-ce que c'est vraiment de la pratique pour moi ou pas? Hein, le doute qui surgit dans l'esprit. Et plus possible non plus de se concentrer. C'est désagréable. Quand nous méditons aussi, à certains moments, tout ce qu'on a laissé sous le paillasson, ça fait coucou. Thich Nhat Hanh, il parle de ce qu'on laisse dans la cave. Hein. Et ça remonte à un moment donné. Hein, tout ce qu'on a soigneusement évité pendant longtemps, ça ressurgit. Hein. Le fait d'être immobile, d'aller nulle part, d'avoir besoin... d'avoir aucun rôle social à jouer, fait que ce qui est resté d'un peu dans l'inconscient ou sous le tapis, ça remonte. Hein. Des sensations, des émotions, des mémoires précises. Hein, que ce soit des blessures, des peines, des blessures non cicatrisées, des peines, des peurs. La colère, tout un tas de choses qui peuvent remonter. La sensation de manque, de vide existentiel. On est tous à la même. Hein. Vous ne croyez pas que c'est que chez vous ou que chez moi. Mais nous rencontrons ça. Hein, cette détresse émotionnelle, des choses du passé, de l'enfance, certains traumas. Et c'est un art de pouvoir rencontrer ça. Ça demande du temps de pouvoir accueillir ça. Nous rencontrons aussi les facettes du moi et de l'ego, hein, le sens du moi, ces histoires, et toutes les pensées identifiées qui gravitent autour. Hein, ça peut être ce sentiment de se sentir jamais assez, et que je dois devenir quelque chose tout le temps. Juste maintenant, je ne suis pas assez. Il faut que je devienne un meilleur méditant. Il faut que je développe plus ma concentration. Il faut que je fasse plus de retraites, ou que je fasse telle formation, ou que je devienne ceci, ou que je devienne cela, ou que je sois promu là. C'est le sens du moi qui se sent jamais complet. Il y a le sens du moi aussi avec ses attachements, les attachements au plaisir des sens. Ah, j'ai envie de jouir de ceci, de cela. Ah là, c'est juste maintenant, si je pouvais mettre mes écouteurs et puis écouter cette chanson, ce serait génial. Hein, l'attachement au plaisir des sens. Mais c'est aussi l'attachement dans notre vie, on le voit. Bon, le plaisir des sens, on le voit bien, on court après. Hein, on met en place tout un tas de stratégies pour être dans le confort. Tout un tas de stratégies pour être dans la... pour recevoir des louanges, la reconnaissance. Tout un tas de stratégies pour être dans la réussite. Hein, l'ego, il se sent fort là-dedans. Il s'attache à cela. Et en contrepartie, plus il s'attache à cela, plus il crée de l'aversion et de la peur pour... Il n'aime pas la douleur, il y a le plaisir des sens, c'est beau d'écouter une belle musique. L'autre jour, j'étais à la Chautron, j'ai écouté un concert absolument magnifique de musique classique. C'était très très beau. Sur un plan sensoriel, c'était parfait. Vous voyez, c'était la perfection. La salle de concert, le son, tout était parfait. Et à un moment donné, il y a quelqu'un dans cette salle qui a commencé à tousser ultra fort et longtemps. Et c'était très génial, c'était très désagréable. J'étais là, il y a tout le monde qui commençait à bouger, à se retourner. Et de voir comment l'attachement au plaisir porte en lui la souffrance de l'imperfection à un moment donné, hein, quand il y a un grain de sable dans la machine. Et je voyais ce. Oh non, mais c'est pas possible qu'ils sortent. Il y avait les contacts auditifs, c'était désagréable. Et je voyais, plus je m'attachais à cette belle musique, plus ben, le désagréable devenait très compliqué. Ben, ça devenait horrible. Et lorsque nous sommes pleinement dans l'instant présent, on se rend compte aussi que nous n'avons pas tellement le contrôle sur ce qui émerge. D'une assise à l'autre, on ne sait pas trop ce qui va être là, ce qui va émerger. On aimerait pouvoir contrôler, se dire maintenant tu te calmes. Mais ça ne va pas. Maintenant tu es un peu dans la bienveillance, hein? Mais ça ne joue pas. Il y a tout un tas de sensations et de choses qui émergent de la partie inconsciente et qui fait que on ne peut que constater quand c'est là et apprendre à gérer et à se réguler avec ça, à rencontrer ça. On ne peut pas le contrôler. Et il y a plein de choses comme ça où le moi aime tellement mettre les choses dans des petites cases, dans des petits tiroirs, tout est sous contrôle, tout est sécure, tout est en place. Et être pleinement là, eh ben, des fois il y a tout qui part en, il y a tout qui explose. On sait plus, il n'y a plus de référence. On sait plus quoi faire. Il y a tout un tas de questions auxquelles on n'a même plus de réponse. On ne sait pas. Et on rencontre ça, cette confusion. Donc rencontrer l'instant, c'est ardu, hein, et ça demande du courage. En fait, quand on rencontre l'instant présent, on rencontre une des nobles vérités que le Bouddha a énoncées, c'est la vérité de dukkha, la vérité de la souffrance. Hein, on ne se cache plus, on regarde ce qu'elle a, et on rencontre notre condition humaine. On rencontre la limite de ce corps physique, avec ses douleurs, ses tensions, la peine qu'il peut porter, l'agitation de ce mental, ce moi qui en a jamais assez, qui veut plus, qui en manque, qui se sent vide. Et nous rencontrons cette première vérité quand nous venons dans l'instant. Et plutôt que de la rencontrer, de l'accepter, de la prendre avec nous, hein, lui ouvrir nos bras, on rentre en conflit avec. Il y a des choses comme elles sont maintenant, un humain limité, avec un ego limité. Et il y a les choses telles que j'aimerais qu'elles soient. Il y a cette tension fondamentale qui se crée entre comment c'est maintenant et comment j'aimerais que ça soit. J'aimerais que ce soit. Et nous entrons en conflit parce qu'il y a cette ignorance de base, cette croyance que la paix et le bonheur se situe dans une expérience physique, émotionnelle et mentale agréable. Et que nous entrons en quête de cela, hein, que ce soit à travers la réussite, le confort, les louanges. Et nous croyons fermement à ça. La paix et le bonheur se situent dans ces expériences conditionnées, agréables, où le moi se sent fort en sécurité. Donc, c'est clair qu'accueillir le maintenant, avec tout ce qu'il porte, c'est rarement l'endroit où on peut trouver la paix et le bonheur, forcément. Vu qu'il y a tout ce que je viens de décrire. Et cette croyance enracinée en nous, elle est erronée, parce que les choses agréables sont bien agréables, mais elles finissent toujours par se terminer. Elles sont toujours impermanentes. On peut avoir une belle qualité d'une relation avec quelqu'un et ça se détériore. Un corps en santé qui tombe malade, qui a un accident. Toutes les expériences conditionnées sont impermanentes. Les choses agréables finissent par se terminer. Et nous sommes en lutte contre cette loi-là, cette loi du changement. Nous ne savons pas de quoi la prochaine heure sera faite. C'est aussi ça. Donc nous sommes amenés à nous ouvrir à cette première vérité et à la comprendre petit à petit par nous-mêmes, à l'investiguer. Et ça demande du courage, de questionner. Comment est-ce? Qu'est-ce que c'est juste là, maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je suis là? Comment est-ce que je peux ouvrir ce cœur et cet esprit à la réalité du maintenant? Que ça me paraisse juste ou faux, bien ou mal, lumineux ou sombre, satisfaisant ou insatisfaisant. Et ça, c'est un vrai questionnement qui vise à sortir de notre roue de hamster, la roue du samsara dans laquelle on tourne comme ça, tout le temps. Et je reprends aujourd'hui beaucoup Pema Chodron, qui dit « Généralement, on considère la gêne, sous quelque forme que ce soit, comme une mauvaise nouvelle. Mais pour les pratiquants ou des guerriers engagés sur une voie spirituelle, ceux qui ont une certaine faim de connaître la vérité, des sentiments comme la déception, l'embarras, l'irritation, le ressentiment, la colère, la jalousie et la peur, au lieu d'être de mauvaises nouvelles, sont en réalité des moments de clarté qui nous enseignent ce que nous refoulons. Ils nous enseignent à redresser la tête, et à faire front quand nous sentons que nous aimerions mieux nous affaler et reculer. Ce sont des messagers qui nous montrent avec une clarté terrifiante l'endroit exact où nous sommes coincés. Le moment présent est le maître par excellence, et heureusement pour nous, il est toujours et partout avec nous. » Donc si cette image vous parle, être pleinement là et revenir pleinement là, demande du courage, qui implique de la curiosité et une qualité de guerrier. Non pas qui prend les armes et qui désingue tout le monde, mais une vraie qualité de guerrier intérieur, de pouvoir entrer dans notre chaos émotionnel, physique, mental, de déposer les armes et d'entrer là-bas dedans avec un peu moins de peur. Donc, rencontrer le moment présent, c'est rencontrer un peu la souffrance, oser perdre pied dans l'instant. Et Ajahn Sumedho, qui est un des moines de la tradition Theravada, qui a beaucoup enseigné aussi à Anne Michel, parle de cela en parlant de la souffrance. Et de la libération de la souffrance. La libération de la souffrance dont le Bouddha a parlé n'est pas en soi une fin de la douleur et du stress. C'est plutôt une ouverture à un choix. Je peux soit être piégé par la douleur qui m'arrive, m'y attacher et en être submergé, soit l'accueillir en l'acceptant et en la comprenant, et éviter d'ajouter de la souffrance à la douleur existante, aux expériences d'injustice, aux critiques, aux souffrances que j'affronte. Même après son éveil, le Bouddha a subi toutes sortes de choses horribles. Son cousin a essayé de l'assassiner, les gens ont essayé de le piéger, il a été blâmé et critiqué, et il a souffert de maladies graves. Mais le Bouddha n'a pas ajouté de souffrance à ces situations. Il n'a jamais réagi avec colère, ressentiment, haine ou blâme. Il a simplement accueilli les situations. Donc plutôt que de voir la souffrance comme une tare, nous pouvons la considérer d'un autre œil comme un moyen de nous éveiller et de nous réveiller, pour autant qu'on le fasse consciemment et intelligemment. C'est à son contact conscient que nous développons, que nous nous libérons petit à petit. Nous rencontrons la souffrance non pas pour être masochiste et parce que nous aimons souffrir, mais pour pouvoir nous en libérer. Et à travers ce contact, nous développons des qualités humaines formidable. Être rencontré la souffrance dans l'instant, c'est gagner en humilité. C'est de voir que nous ne sommes pas grand-chose. C'est de faire grandir la compassion pour soi-même, l'autocompassion. De voir, oui, il y a cette souffrance humaine là, et je suis sensible à ma peine. Est-ce que je peux être là, demeurer avec, reconnaître cela plutôt que de toujours rejeter ça? C'est pas une faute. Nous sommes humains, nous sommes des êtres sensibles. Montaigne disait, c'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Quelque chose comme ça. Nous sommes des êtres sensibles. Nous pouvons nous dissocier, nous couper, ne plus rien ressentir, mais nous passons à côté de quelque chose, une partie de nous-mêmes, des autres, de la vie. Donc comment entrer en intimité avec la vie et avec le maintenant? Et la compassion nous aide à ça. Elle nous aide à être avec ce qui est difficile et à nous laisser sentir un peu. Et pouvoir nous ouvrir à notre propre souffrance, à notre propre difficulté, ouvre notre cœur à la souffrance des autres, parce qu'on sait qu'eux aussi portent cela. Ça nous ouvre aux autres. Ah, lui aussi. Ok. S'il réagit comme ça, c'est parce qu'il y a de la douleur. Moi, je le vois quand je médite. Je le sens, ok. La compassion pour soi ouvre à la compassion pour les autres. Et une autre qualité, c'est la qualité de sagesse. Nous apprenons à reconnaître ce qui est là. Nous apprenons petit à petit à discerner ce qui est bénéfique de ce qui est non bénéfique. Qu'est-ce qui est bénéfique pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Commencer à discerner ça. Qu'est-ce qui m'amène vers quelque chose qui va me libérer? Qu'est-ce qui m'emprisonne? Et l'autre aspect, c'est de petit à petit voir la nature même de l'expérience, sa nature impermanente, sa nature par conséquent insatisfaisante, parce que impermanente, changeante. Une sensation, elle disparaît. Une émotion qui est apparue ce matin, elle n'est plus là. Il y a eu le début de l'assise, la durée, la fin, il va y avoir le début de l'enseignement, la durée, bientôt sa fin. Tout passe. Et finalement, la nature impersonnelle de l'expérience. L'identification et le moi se créent par-dessus une expérience qui est fondamentalement pas personnelle. Et lorsque nous revenons dans le maintenant, nous apprenons aussi à ouvrir les yeux à tout ce que nous avons déjà. Nous avons un toit, il fait plus ou moins chaud. Nous nous ouvrons à la beauté, à la simplicité, à la gratitude. Nous avons moins besoin de choses extraordinaires pour nous contenter. Un sourire, parfois, ça suffit. L'odeur d'un thé, d'un café. Hein, le dossier d'une chaise, après de longues heures de méditation. Ah, juste ça, c'est bien. La beauté de la nature. Comme nous sommes toujours accaparés dans notre esprit, on ne voit plus ça. Il nous faut la nouvelle bagnole comme ci, il nous faut les vacances comme ça. Il nous faut la reconnaissance de notre chef. On est pris là-dedans. Et je vais terminer avec là une parole du Bouddha que vous connaissez peut-être. Ainsi, moine, cette vie n'a pas pour but le gain, la louange, les honneurs, la réussite, les plaisirs, la réalisation de l'éthique, l'unification ou la connaissance. Cette vie a pour but l'inébranlable paix du cœur. C'est son bon bois et la fin de la souffrance.